écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. En Californie, des inondations et des glissements de terrain. Au Texas, des tornades. En Inde, dans certaines régions, trois fois moins d'eau que d'habitude et une saison agricole ruinée. Même chose en Afrique australe où les agriculteurs appellent à l'aide. En Afrique de l'Ouest, les plantations de cacao qui sont à la disette. À l'origine de ces multiples situations, un phénomène souvent unique, El Niño, un courant chaud dans les eaux du Pacifique au large du Chili, du Pérou, de l'Équateur en Amérique du Sud. Ce sont les pêcheurs de cette zone qui ont baptisé ce courant El Niño, l'enfant. Ils avaient remarqué que ce phénomène se produisait vers la fin de l'année, au moment de l'apparition de l'enfant Jésus dans la religion catholique dont ils étaient imprégnés. Cette appellation est vieille de 2 siècles, nous dit-on, car El Niño ne date pas d'hier et aujourd'hui, bien qu'il soit souvent relégué aux arrière-plans de l'actualité, il frappe, il cogne, il imprime sa marque sur des territoires immenses, soumet des populations nombreuses à son imprévisible violence. Quel est le coût pour l'économie? Comment adapter l'agriculture à ce phénomène? Pour répondre à ces questions et à quelques autres, 3 invités que je vous présente maintenant. Bonjour Catherine Miloc.
Bonjour.
Catherine Miloc, vous êtes chercheuse au CNRS, vous enseignez au Centre d'économie de la Sorbonne et vous êtes membre associé à l'École d'économie de Paris. Vous travaillez sur les questions d'économie agricole, d'environnement, de migration, de développement. Vous êtes membre du comité éditorial de la revue Environment and Development Economics, publiée aux presses universitaires de Cambridge. Et vous avez coordonné l'un des derniers numéros de cette revue consacré à l'adaptation au changement climatique dans les pays en développement. Est-ce qu'il est question d'El Niño dans cette livraison?
Ces numéros collectionnent, on recueille un certain nombre d'articles qui traitent des phénomènes liés au changement climatique, mais on ne parle pas précisément d'El Niño.
Alors vous parlez de quoi?
On parle de la variabilité climatique et notamment les flux migratoires induits par le changement climatique.
Qui sont importants.
Donc à la fois au niveau international et au niveau de la migration interne à l'intérieur des pays comme l'Inde par exemple.
Donc,
ça,
voilà.
C'est le sujet de ce numéro que je conseille qui traite donc l'atténuation des gaz à effet de serre et l'adaptation dans les pays en voie de développement.
Alors, à vos côtés, Catherine Miloc, Gilles Dufresneau. Bonjour, Gilles Dufresneau.
Bonjour, Jean-Pierre Boris.
Gilles Dufresneau, vous enseignez l'économie à l'Université d'Aix-Marseille. Vous êtes membre de l'École d'économie de Marseille et de 2004 à 2008, vous avez été conseiller du commissaire chargé des politiques économiques de la commission de l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Est-ce que dans le cadre de ces fonctions, vous avez eu à observer les effets d'El Niño?
Pas directement les effets d'El Niño, mais en revanche, les effets très importants que peuvent avoir la pluviométrie ou les changements climatiques sur la production agricole et donc sur la croissance économique des pays, notamment les pays sahéliens, de la zone sahélienne.
Avec nous également dans ce studio, Jean-Joseph Boileau, bonjour.
Bonjour.
Jean-Joseph Boileau, vous êtes conseiller du club du CEPI, l'un des principaux centres de recherche économique en France. Vous êtes le cofondateur de l'Euro India and Business Group, donc on parle gros sous, affaires, business. Les éditions La Découverte publient en ce moment, ces jours-ci, une nouvelle édition de votre livre L'économie indienne, c'est dans la collection Repères. Alors Jean-Joseph Boileau, sans trahir de secret, je sais que hier encore vous étiez dans l'avion et vous venez d'atterrir, vous revenez du Niger. Est-ce que vous y avez constaté l'impact du Niño?
Non, pas du tout. Et je suis allé au Niger parce que je voulais reprendre les travaux d'Amartya Sen, qu'il a fait de façon extraordinaire.
Donc le prix Nobel de l'économie.
Prix Nobel d'économie sur la part relative du climat, des fluctuations climatiques et des problèmes de famine. C'est que sa thèse est extrêmement forte. Elle est démontrée que fondamentalement, ce n'est pas lié à ces phénomènes climatiques quand il y a des grandes famines. C'est lié essentiellement à des phénomènes de régulation. Et ça m'importe parce que...
Qu'est-ce que vous appelez des phénomènes de régulation interne à
oui,
ces
c'est
pays
ça.
Économiques
de voilà, de transport, de logistique, de discrimination vis-à-vis des populations tribales, par exemple. Et donc, le cas du Sahel est typique, manifestement, de ça. Et c'est important pour nous parce que en Chine ou en Inde, beaucoup plus touchés par le phénomène El Niño, s'il y a une résilience aujourd'hui de ces deux pays, c'est parce qu'ils ont précisément... jusqu'à présent en tout cas, des structures de régulation qui prennent en charge ces déficiences qu'il peut y avoir.
Au cours de cette émission, nous aurons des reportages. Il y aura un reportage de Sébastien Farcy en Inde, un autre de Lisa Fabien en Afrique du Sud. Nous entendrons également Eric Sanson en Équateur, un reportage de 1997 tiré des archives sonores de RFI. Et nous parlerons cacao avec une négociante, Sylvie Bélanger. Tous les journaux nous en parlent, quand ils en parlent. Le courant El Niño est le plus puissant depuis un demi-siècle. Alors, ce n'est pas une émission scientifique, on ne va pas s'attarder sur des questions purement climatiques, mais est-ce que les uns et les autres, au cours de vos voyages, de vos lectures, de vos écrits, vous avez pu constater l'importance de ce phénomène ces derniers mois, Catherine Miloc?
Donc, El Niño, c'est un phénomène cyclique. Hein. On connaît que ça revient avec une régularité, disons, tous les 5 ans. Le dernier, c'était en 2009. Et le plus sévère jusqu'ici, c'était dans les années 97-98. Mais là, on est en train de dépasser tout ce qui a été observé précédemment.
C'est-à-dire ?
Donc, c'est-à-dire que c'est d'une ampleur beaucoup plus large, beaucoup plus grave. Donc, on a des indices météorologiques qui mesurent l'intensité d'un phénomène El Niño. Et là, on est en train de dépasser la période, l'épisode la plus grave jusqu'ici, donc en 97-98.
Et vous, Gilles Dufresneau, est-ce que c'est quelque chose, ce courant El Niño, qui marque vos travaux, vos cours, vos enseignements, vos écrits ?
Oui, c'est quelque chose auquel on s'intéresse. Alors, il y a El Niño, mais il y a aussi la Niña. Ce sont donc deux phénomènes extrêmes. La Niña, c'est un petit peu un durcissement des conditions habituelles, c'est-à-dire que les nappes d'eau chaude vont beaucoup plus rapidement vers l'ouest qu'elles ne le font habituellement, alors que El Niño, elle reste à l'est. Alors c'est important parce que si vous prenez le cas de l'Afrique actuellement, en Afrique on observe en moyenne dans un certain nombre de pays, notamment d'Afrique australe, une augmentation de la température moyenne. Alors il y a un certain nombre de personnes qui disent, bon, ça peut être lié au changement climatique, mais ça peut être aussi les signes avant-coureurs d'El Niño. Et puis il y a un deuxième continent qui nous intéresse, qui est le continent latino-américain. L'Amérique latine a vécu très durement la Niña en 2010, et des pays comme le Pérou, l'Équateur sont aux avant-gardes. Il y a un certain nombre de structures que la FAO met en place pour...
La FAO, c'est l'Organisation internationale
tout à fait.
Hein, sur l'agriculture et l'alimentation.
Tout à fait. Donc, c'est quelque chose qui est important là-dessus.
Jean-José Voileau, vous en Inde, est-ce que...
C'est passionnant. C'est par exemple, en 2014, vers octobre, il s'est agi de faire le bilan de l'état de la mousson et surtout des prévisions. Ce qui passionne les Indiens, c'est la mousson, il y a le cycle économique, le cycle politique, mais il y a surtout la discussion à partir du mois de mai, voire avril, où on donne les premières prévisions. Et donc, il y a une sorte de grand affrontement entre l'Indian Meteorological Department, qui est le département d'État de la météorologie, et puis un certain nombre d'instituts privés qui se sont lancés ces dernières années, avec, en 2014, la victoire de l'IMD public, qui avait mieux prévu les choses. Et El Niño, évidemment, est essentiel pour l'Inde, parce qu'elle dépend à la fois de la régularité ou de la prévisibilité plus exactement du phénomène de la mousson. Et puis, deuxièmement, quand il y a des courants de ce type-là, El Niño, ben, ça perturbe effectivement la régularité de la mousson. Donc, c'est absolument essentiel. Et aucun ne parle espagnol, mais ils savent tout ce que veut dire El Niño et la Niña aussi, d'ailleurs.
El Niño et la Niña, hein, en espagnol.
Le petit garçon et la petite fille.
Voilà. Alors, El Niño ne date pas d'hier. Il y a près de 20 ans, en 1997, notre correspondant en Équateur, Eric Sanson, faisait le compte-rendu suivant sur les antennes de RFI. On l'écoute.
Pire qu'une guerre, voilà comment la presse équatorienne résume de façon éloquente les premières conséquences du phénomène du Niño qui s'acharne sur le pays depuis près d'un mois. Le bilan actuel des pluies catastrophiques qui se sont abattues sur tout le littoral est déjà de 75 morts, 22 blessés, 6 disparus, sans compter plusieurs milliers de sans-abri qui vont passer les fêtes de fin d'année dans des écoles transformées en auberges de fortune et où le repas de Noël sera au mieux un bol de soupe et un peu de riz. Le nord du Pérou a également été touché sévèrement ces 2 dernières semaines. Plusieurs dizaines de personnes ont déjà été victimes des inondations, des éboulements de terrain ou simplement de la destruction de leurs maisons. Dans la région d'Iquitos, un petit village a notamment été rayé de la carte lorsque le fleuve Amazon est sorti de son lit, provoquant la mort de 15 personnes. Partout, les épidémies de dengue, paludisme et même choléra font un retour en force, obligeant les autorités à multiplier les campagnes de vaccination. Récoltes détruites, routes coupées, le phénomène du Niño a également des conséquences économiques qui se chiffrent déjà en centaines de millions de dollars. Et tout cela alors que les pluies devraient se poursuivre pendant au moins 2 mois.
Un papier, une correspondance, comme on dit dans notre jargon journalistique, qui remonte à 1997. Est-ce qu'on pourrait écrire, dire la même chose, Gilles Dufresneau, aujourd'hui, en Amérique latine, est-ce que El Niño frappe aussi violemment ?
Oui, El Niño frappe aussi violemment. Ce qui préoccupe, les pays comme le Pérou, l'Équateur se préparent évidemment, mais ce qui est très inquiétant, c'est que El Niño va se produire au mauvais moment parce que les pays d'Amérique latine sont dans une position macroéconomique déjà très difficile. On parlait de pays émergents, maintenant c'est terminé. Il y a plein d'indicateurs macroéconomiques qui sont au rouge. Et les effets ont toujours été dévastateurs. Donc, c'est très préoccupant.
Catherine Miloc, est-ce que El Niño a eu un coût économique important pour les pays d'Amérique latine ou la Niña au cours des décennies passées?
Je pense que ça a été avéré. Il y a des études économiques qui montrent un effet macroéconomique sur le taux de croissance de certains pays. Ce que ce reportage démontre, c'est qu'il y a un coût humain aussi important. Il ne s'agit pas juste d'un coût économique. Il y a des pertes de vie humaine liées à des inondations soudaines. Il y a aussi des effets sur la santé. Il ne faut pas oublier qu'une pluie abondante favorise la croissance de populations de moustiques. Donc, on peut craindre effectivement une recrudescence des maladies vectorielles portées par des moustiques. Donc, il y a des effets de santé aussi.
C'est la dengue dont parlait Eric.
Qui s'ajoute, la dengue, d'autres maladies vectorielles. Et qui s'ajoute, donc ces effets directs de santé s'ajoutent aux effets indirects via le marché et via des effets de mécanismes de prix sur le marché agricole.
Mais ça veut dire que ça fait monter les prix ?
Non, donc là je parle, l'effet indirect, ça vient de la production agricole, donc
la production
qui,
agricole baisse.
Qui est affectée, soit par une abondance de pluie et des inondations, ou soit par des décalages de dates de pluie, et qui fait que la production baisse, qui fait monter les prix. Donc le Brésil par exemple, le Paraguay, en fait c'est des pays exportateurs de matières primaires agricoles. Ça a un impact sur les prix, sur le marché mondial.
Gilles Dufresneau, vous êtes d'accord ?
Oui, je suis absolument d'accord. Je crois qu'il y a tout de même une particularité pour les pays d'Amérique latine comme pour le reste du monde, c'est que les pays sont en situation d'inégalité. En fait, El Niño correspond à ce qu'on pourrait appeler un choc asymétrique, c'est-à-dire qu'il y a également des effets positifs. Alors, ça veut dire qu'il y a, il y a certains pays pour lesquels c'est bon. El Niño... C'est bon qu'il y ait El Niño parce qu'on a davantage de pluie. C'est le cas du Brésil, par exemple. Lorsque vous avez le phénomène d'El Niño, vous avez une partie, le nord-est, qui est, où vous avez de la sécheresse, etc. Donc, il y a des conséquences plutôt négatives. Alors que dans du côté sud-est, au contraire, vous avez des pluies abondantes qui favorisent un certain nombre de récoltes. Bon. On pourrait dire la même chose d'autres pays. Bah, par exemple, El Niño, c'est bon pour la Californie. Donc, les effets sont partagés, en fait, d'un pays à l'autre.
Jean-Joseph Boileau, vous connaissez le Brésil. Vous confirmez que pour le nord du Brésil, c'est négatif, pour le sud, c'est bon, El Niño ?
Bah parce qu'il y a...
Il y a quand même, c'est grand.
Bah oui, c'est la moitié du continent latino-américain. Et on a le même phénomène en Afrique, qui est encore plus grande. Là, je reviens du Sahel. Depuis un certain nombre d'années, on a l'impression qu'il y a un peu plus de pluie. Donc il faudra vraiment faire très très attention à ce catastrophisme qui souvent traîne à droite et à gauche, ou qui prête tous les torts aujourd'hui au changement climatique, alors qu'il y a des phénomènes qui sont des traînes séculaires, des traînes décennales.
C'est pour ça que j'aime bien...
Des tendances. C'est pour ça que j'aime bien l'Inde, parce qu'il y a, pour l'instant en tout cas, il n'y a pas de phénomène de panique. La télévision française a finalement plus paniqué à propos des inondations massives qu'il y a eu dans la région de Chennai que les Indiens eux-mêmes. Je ne dis pas qu'ils sont habitués à la fatalité dramatique, non, ils se sont organisés, et donc il y a des phénomènes extrêmement positifs des fois. Ce qui a plus posé problème en Inde, c'est que on a la combinaison l'année dernière d'une extrême chaleur et pas assez de pluie, disons. Or, l'extrême chaleur tue plus que le trop de pluie. Et ça, je pense qu'il faut qu'on fasse très très attention à ce phénomène-là dans les années à venir, parce que finalement la pluie, si on s'organise bien pour la collecter dans des canaux, pour la drainer, notamment en Inde, dans le sud, dans le Tamil Nadu, c'est extraordinaire. Ils ont mis en place partout des systèmes de récupération et de stockage des eaux. Ça, en l'espace de 30 ans, j'ai vu une révolution agricoles liés à ce phénomène-là. Par contre, sur la chaleur elle-même, ça c'est beaucoup plus difficile d'agir. Lorsque vous dépassez dans le Madhya Pradesh, où j'ai ma belle famille, 51 degrés, là, rien n'est sorti. Donc là, il y a eu une perte très importante liée à cette
Le Madhya Pradesh, on va y aller dans le la deuxième centre, partie voilà, de cette émission avec un reportage de Sébastien Farcy. Mais avant, est-ce qu'on peut mesurer globalement l'impact d'El Niño sur l'économie agricole mondiale? Est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce qu'il y a des tendances? Gilles Dufresneau?
Alors, vous avez un indicateur que les Américains ont construit, qu'on appelle l'indicateur ENSO, qui est un indicateur en fait, lorsque vous avez un El Niño, vous avez un différentiel de pression des eaux entre deux points sur la carte. Donc, on a cet indicateur-là. On a évidemment des indicateurs macroéconomiques et on a des études. Le FMI, par exemple, vient de faire une étude très complète où il analyse les effets pays par pays. Et donc, ce qui ressort de cette étude, justement, c'est que les effets sont très hétérogènes sur la planète. Et à l'intérieur même d'un pays, les effets peuvent être très différents.
Par exemple ?
Alors, je prends le Pérou. Voilà, prenons un exemple concret. Pérou.
Parce que c'est le pays qui est quasiment le premier concerné.
Alors, on pourrait penser que pour le Pérou, ce serait dévastateur. Alors, vous savez qu'il y a deux filières clés au Pérou. Il y a le secteur de la pêche. Le Pérou est le premier producteur mondial de produits alimentaires à base de poissons qui sert à fabriquer les farines animales qui sont utilisées dans le monde entier pour nourrir le bétail. Ça, c'est le premier point. Et dans le cas du Pérou, il y a des risques que ce secteur soit, c'est une bonne chose, pour la pêche. Bon, d'un autre côté, le Pérou est également un producteur de nickel, de cuivre, etc.
Surtout de cuivre, de zinc.
Tout à fait. Et donc, là, les effets dans ce secteur seraient plutôt négatifs. Et donc, ce qui intéresse le Fonds monétaire international, c'est de dire, de balancer un petit peu, de comparer, en fait, les effets positifs avec les effets négatifs. Donc, voilà, ça c'est un premier exemple, mais tout à l'heure je donnais l'exemple du Brésil, on pourrait donner l'exemple du Chili, etc. Les effets sont
Et comment est-ce qu'El Niño peut être négatif, puisque c'est un phénomène purement climatique, sécheresse, inondation, comment est-ce qu'il peut être négatif pour une exploitation minière?
Alors, si vous avez des inondations, vous ne pouvez plus, il n'y a plus d'exploitation. Donc, ça c'est un... Et le plus souvent, c'est le cas.
Oui.
Le plus souvent, c'est le cas, ça se produit de cette façon-là.
Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Quant à l'impact économique sur le marché mondial de l'agriculture, il y a plusieurs phénomènes, des mécanismes qui interviennent. Comme a dit Jean-Joseph, ce n'est pas que des facteurs climatologiques. Les chocs climatologiques qu'il y a toujours eu, il y a des feux, des forêts, des incendies. Il y a ça, il y a aussi des politiques qui interviennent, donc les politiques commerciales, les politiques de subvention de biofuel, par exemple, qui réduit la superficie dédiée à la culture des céréales et qui réduit encore plus l'offre, qui fait qu'on ressent un impact encore plus lourd des chocs climatiques quand ils arrivent. Donc il y a une interaction de mécanismes et pas uniquement le phénomène climatologique qui crée les conditions d'augmentation de prix, par exemple, sur le marché agricole.
Jean-Joseph Boileau.
Alors, l'auditeur ne pourra pas le voir, mais vous pouvez le voir.
Moi, je peux voir, oui.
Ce qui est intéressant avec l'Inde, c'est qu'on a un phénomène, donc c'est un continent. Et donc, au lieu d'avoir 36 000 pays, on a un continent. Et vous voyez, ça, c'est le nombre de stations météorologiques qui sont avec un excès et d'autres qui sont avec, au contraire, des déficiences. Et ce qui est extraordinaire en Inde, c'est qu'ils ont cette capacité de gérer précisément, de façon fine, parce que chaque année, il va y avoir une distribution inégale de la mousson. Elle va être cette année très forte dans le sud, là il y aura probablement trop d'eau, donc certaines cultures vont être affectées, mais inversement, donc plus à l'ouest, vers le Punjab par exemple, il y aura un peu moins d'eau, donc un peu moins d'inondations, et comme c'est plus irrigué, on aura des excédents. Donc c'est ça qui est très important, et le travail qui est fait par l'Inde ces dernières années, c'est moins un travail seulement de nouvelle biologie, mais c'est d'arriver à gérer le continent dans ces chocs variables exogènes, disons.
On aura l'occasion de reparler de l'Inde dans quelques minutes après le flash d'actualité qui arrive maintenant. C'est en effet la fin de la première partie de cette émission et je vous dis à tout de suite.
Écho d'ici. We'll be right back. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Deuxième partie d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous parlons d'El Niño, ce courant maritime chaud qui longe les côtes de l'Amérique du Sud dans le Pacifique et qui a un impact mondial. Trois invités pour en parler, Jean-Joseph Boileau, conseiller au club du CEPI, l'un des grands centres de recherche économique français, Gilles Dufresneau, professeur d'économie à l'université Aix-Marseille, et Catherine Miloc du centre d'économie de la Sorbonne et de l'école d'économie de Paris. Au cours de la première partie de cette émission, nous avons parlé des traces laissées par El Niño au Pérou et en Équateur. Nous avons cherché à quantifier l'impact économique de ce courant. Vous nous avez dit les uns et les autres que cet impact était très divers, qu'il pouvait même être positif. Nous partons maintenant en Inde où El Niño et le réchauffement climatique se conjuguent pour créer de gros problèmes agricoles. Exemple dans l'état du Madhya Pradesh, plus précisément dans le district de Timkarga, où des centaines d'hectares sont à l'abandon à cause du manque d'eau et les agriculteurs s'apprêtent à migrer en ville pour survivre. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Sébastien Farsi.
Regardez, ce puits, ça fait déjà 4 ans qu'il n'a pas été rempli. Il y en a entre 50 et 100 comme celui-là, sur des kilomètres à la ronde, et ils sont quasiment tous vides. Le peu d'eau qui reste nous sert à boire et à alimenter les bêtes. Nous avons essayé de creuser pour chercher de l'eau sous terre, mais même à 60 mètres, nous n'avons rien trouvé.
Une trentaine d'hommes sont rassemblés, les bras ballants et la mine grave, près de ce puits du village de Kalotra, à l'est de l'état du Madhya Pradesh, au centre de l'Inde. Tout autour d'eux, des hectares de terre sont laissés en jachère par manque d'eau. La mousson, qui alimente habituellement les puits de juillet à septembre, n'a engendré cette fois qu'environ 400 mm de précipitations dans la région, soit trois fois moins que la normale. Et c'est la deuxième année consécutive que la pluie manque à l'appel. Du coup, les carences deviennent importantes, explique ce villageois.
Avant la sécheresse, je mangeais 4 galettes par jour. Maintenant, je ne peux en manger plus qu'une. Nous avons commencé à remplacer le savon par de la boue et il n'y a plus d'électricité dans le village car plus personne ne peut payer.
Ce scénario se répète dans le village de Namapura, à 5 km plus loin. Là, les habitants ont réussi à planter un seul champ. Maigre consolation pour des paysans qui vivent d'habitude confortablement grâce à cette terre fertile où poussent du blé et du soja. Un homme aux cheveux gris et au regard inquiet s'approche, il a 62 ans.
J'ai grandi ici, j'ai commencé à travailler la terre à 14 ans, je n'ai jamais vu cela. L'eau se cache de plus en plus profondément. Quand l'été arrivera, nous allons mourir de soif.
Le gouvernement régional devrait prendre plusieurs mois avant de verser les premières indemnisations et les villageois sont sceptiques. En 2010, quand une aide similaire a été annoncée, ils n'ont quasiment rien reçu. Pramod Karé est le coordinateur du MPANM, une association d'aide aux paysans.
Le gouvernement doit réaliser un nouveau sondage pour identifier ceux qui bénéficieront de l'aide. Car ce sont souvent les grands propriétaires terriens qui en accaparent l'essentiel. Un autre problème est que ces indemnités ne sont jamais à la hauteur des pertes et que les travailleurs sans terre, eux, ne reçoivent rien.
Selon une analyse du journal économique Mint, l'indemnité de 273 millions d'euros accordée pour le Madhya Pradesh ne couvrirait qu'un cinquième des pertes des agriculteurs. À ceci s'ajoute le risque qu'une partie de cet argent soit détournée par des intermédiaires corrompus.
Un reportage très riche, signé Sébastien Farsi, donc dans l'état du Madhya Pradesh, que vous connaissez bien, Jean-Joseph Boileau. C'est un cas fréquent, ces problèmes qu'ils rencontrent, ces paysans?
Oui, il faut toujours faire attention, là encore, on en a parlé tout à l'heure, à ne pas prendre un reportage dans un lieu donné et en faire une généralisation. Le Madhya Pradesh, c'est plus grand que la France. Il y a 90 millions d'habitants. Donc le problème plutôt qui se pose dans cette région, c'est deux choses. Premièrement, c'est la question de l'avenir des familles agricoles qu'on appelle marginales. C'est-à-dire celles qui en réalité sont pas vraiment des agriculteurs, mais des paysans. Et qui, eux, dans l'ensemble de l'Inde, d'ailleurs, mais en particulier au Madhya Pradesh, où on a plutôt affaire à une région de ce qu'on appelle « rain-fed », agriculture, c'est-à-dire une agriculture qui dépend de la pluie, ils n'ont pas les moyens de s'acheter des pompes pour aller chercher l'eau en profondeur
et compenser
pour irriguer. Ouais. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, je vous disais, on est en train de voir au Madhya Pradesh une énorme région, le poumon à blé de l'Inde. parce que les céréales qui étaient la révolution verte qui avait essentiellement touché le Punjab et l'Haryana, qui fournissaient 80% de l'excédent de ces céréales dans les années 70-80 sous Indira Gandhi, avec les États-Unis qui avaient beaucoup poussé à cette révolution verte, a épuisé non seulement ses effets mais a commencé à déverser tous ses effets négatifs. Donc les rendements diminuent, les eaux sont empoisonnées par excès de pesticides, d'engrais. Et là, tout d'un coup, on a trouvé cet énorme centre de l'Inde, le Madhya Pradesh, qui a une terre extrêmement riche, c'est le Deccan, c'est de la terre volcanique, et on a à ce moment-là un deuxième type d'agriculture, ce sont des agriculteurs qui ont des machines et qui, eux, peuvent être capables de compenser ces phénomènes d'incertitude, etc., par une meilleure prévisibilité.
Quand même, là, vous êtes en train de démolir le reportage de Sébastien Farcy en nous disant c'est un cas isolé, c'est deux petits villages, il ne faut pas généraliser. Un phénomène...
Le problème, c'est que la production agricole indienne, si vous voulez, sur le plan macroéconomique, c'est ça qu'il faut dire. C'est que sur le plan macroéconomique, la production indienne de céréales n'a jamais été plus élevée l'année dernière, année de ce reportage. Donc il faut faire très très attention à ne pas prendre là encore ce qui peut être un phénomène de micro-ajustement et puis l'image macroéconomique. Quand il y a une déficience de pluie comme l'année dernière, ça n'a impacté que de 3% la production agricole indienne. Là encore, parce qu'on a des phénomènes de gains et de pertes selon les régions et puis parce qu'on a un phénomène de gains et de pertes au sein du monde agricole entre ce que j'appelle les agriculteurs marginaux et les grands agriculteurs qui sont capables souvent de faire face à ces problèmes de changement climatique parce qu'ils s'y adaptent précisément.
Catherine Milloc, est-ce que ça veut dire que El Niño sépare le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire est-ce qu'il défavorise les petits agriculteurs et permet aux grands de résister mieux? Est-ce que ça provoque une élimination de certains secteurs agricoles en Inde? Est-ce que c'est ça?
Je suis tout à fait d'accord avec Jean-Joseph, mais ce qui est intéressant avec ce reportage, c'est que ça illustre bien l'effet distributif d'un phénomène El Niño. C'est-à-dire que les propriétaires des terres, même s'ils subissent une perte agricole, donc une réduction de l'offre, ils sont en partie compensés par une montée des prix. Les sans-terres, les laboureurs agricoles, eux, ils n'ont aucune récompense, sauf si leur salaire monte, ce qui est assez peu probable. Donc, il y a un effet qui est plus grave pour les populations sans terre, les laboureurs donc marginaux en Inde, les populations en ville aussi. Ce qu'on voit en Afrique, en Éthiopie, qui subit une grande sécheresse en ce moment, les populations les plus touchées seront sûrement les populations urbaines qui vont avoir à subir la montée des prix, sans aucune éventuelle récompense par une montée des prix. Donc, il y a un effet distributif même à l'intérieur d'un pays. On a parlé du phénomène des El Niño qui touche différentes régions du monde de différentes façons. Ça peut toucher de grands pays comme le Brésil et l'Inde, différemment selon la région. Mais à l'intérieur d'un pays, ça touche différentes catégories de personnes différemment. Et notamment la population rurale et la population urbaine et les sans-terres et les propriétaires terrains.
Gilles Dufresneau, est-ce que les gouvernements sont suffisamment habiles dans leur gestion des compensations pour indemniser les petits et moins indemniser les gros? C'est pas ce qui se passe selon ce que décrivait Sébastien Farcy dans son reportage.
Je voudrais dire, je suis d'accord avec ce que viennent de dire les deux intervenants précédents, notamment dans le cas de l'Inde. Il apparaît que l'Inde montre une certaine résilience en fait à El Niño. Pour différentes raisons, parmi ces raisons, il y a d'abord le fait qu'il y a deux types de cultures, comme l'a dit Jean-Joseph, en Inde, des cultures qui dépendent davantage de la moisson et d'autres qui dépendent un petit peu moins de la moisson. Tout à fait. Alors, ce qu'on a observé ces dernières années, c'est que la part des cultures rapides, en fait, des cultures qui dépendent moins de la moisson, a augmenté, justement. Alors, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le gouvernement a mis en place un certain nombre de mesures, de politiques agricoles qui ont eu comme effet d'augmenter la productivité agricole. Donc ça, c'est quelque chose de fantastique. Et troisième point, c'est que c'est vrai qu'il y a un stress hydrique qui est observé dans certaines régions. Mais globalement, dans le pays, les surfaces irriguées ont augmenté. On est, de l'ordre de 86 millions d'hectares aujourd'hui. C'est quatre fois ce qu'on a observé en 1950. Donc, on voit que les politiques mises en place par les gouvernements sont très importantes.
Et qu'elles compensent l'effet...
Et qu'elles peuvent compenser les effets négatifs que l'on observe à une échelle locale.
Jean-Joseph Boileau.
Bien sûr, c'est comme si vous aviez pris l'habitude de vous laver avec les pluies, et puis tout d'un coup, vous avez une salle de bain avec baignoire. C'est une image simple. Et c'est pour ça que je fais, personnellement, je soutiens assez bien la position des autorités indiennes de la météorologie qui disent clairement que derrière cet alarmisme sur El Niño, hein, ils disent qu'on accentue cet alarmisme qui est largement repris, vous m'excuserez, c'est vrai, par les médias toujours attentifs à ces images de pauvreté, de misère, etc., en disant même que ça va, que c'est manipulé par les marchés financiers internationaux pour provoquer des spéculations, des phénomènes de spéculation à ce moment-là. Et le problème de l'Inde, c'est qu'elle souffre de cette spéculation sur les prix parce que ça se traduit, comme le disait tout à l'heure notre ami, par une montée des prix urbains d'une certaine façon. Il y a des spéculateurs dans le monde qui alimentent les spéculateurs dans le pays et qui donc à ce moment-là vont avoir un impact sur les populations fragiles du monde urbain où, parce que par exemple le prix des céréales va être multiplié par deux. Alors l'Inde compense là en ayant une politique de stock qui est énorme et d'ailleurs qui explique pourquoi elle refuse de signer les accords de l'OMC. Il faut savoir que c'est quand même c'est l'Inde qui bloque aujourd'hui la conclusion de l'actuel round, le Uruguay round, c'est bien cela?
Non, l'Uruguay round c'est le Doha round.
Merci beaucoup, de façon à pouvoir contrôler ces politiques de prix, etc. Mais je pense que ce signal d'alarme des autorités indiennes est très, très important. Il faut qu'on arrête de jouer avec ces phénomènes climatiques comme on jouerait avec la bourse. C'est, voilà, je ne sais pas si les deux autres interlocuteurs sont d'accord avec ça, mais la position indienne est très nette là-dessus.
Gilles Dufresneau, est-ce que vous êtes d'accord avec cette accusation de manipulation des cours?
Je dirais tout de même que l'Inde est un pays continent. Et donc cette analyse, qui est tout à fait pertinente pour l'Inde, l'est peut-être un tout petit peu moins. Peut-être faut-il nuancer pour des pays plus petits, où là, il y aurait besoin de politique régionale. Évidemment, les conséquences sont catastrophiques pour les petits pays d'Amérique latine, la Bolivie, le Guatemala, etc. Et pour les petits pays, entre guillemets, d'Afrique, l'Éthiopie, etc. Donc, l'Inde est peut-être un cas particulier, du fait que c'est un pays continent, comme le Brésil, les États-Unis, etc.
C'est sa première coopération à l'international d'ailleurs, les questions météorologiques. Notamment en Afrique, c'est extrêmement intéressant. L'Inde est beaucoup moins présente que la Chine, mais là où elle met l'accent, c'est sur l'utilisation de la capacité autonome de l'Inde avec les satellites. C'est quand même la deuxième puissance mondiale aujourd'hui en termes de prévisions météorologiques. Et elle met donc ses connaissances à la disposition des pays partenaires et notamment de l'Afrique.
Il y a quelqu'un qu'on va écouter maintenant qui semble aller dans votre sens. C'est Sylvie Bélanger, une spécialiste du cacao, une négociante historique du cacao en France, qu'a rencontré Claire Fache pour Éco d'ici, Éco d'ailleurs, Sylvie Bélanger, qui constate que les mutations climatiques, et El Niño en particulier, ont un impact sur le prix et même sur la qualité des matières premières.
Le climat est aussi, comme nous le savons tous, un facteur déterminant pour le cacao qui adore l'humidité et la chaleur. Oui, seulement là, avec le phénomène du Niño, on s'aperçoit que le climat change, que les températures montent aussi dans les zones équatoriales. Et ça, le cacao n'aime pas beaucoup. Il a besoin de pluie. Les pays manquent de pluie. Je suis allée visiter plusieurs plantations sur la zone équatoriale et on s'aperçoit très nettement que les arbres souffrent. Ils souffrent du réchauffement climatique, du manque de pluie, du décalage des saisons, comme nous. Ici, en Occident, les saisons se décalent, ça pose des questions et les gens se demandent s'ils ne vont pas justement accélérer, ça c'est un peu dommage, mais c'est comme ça, les replantations de ce qu'on appelle le CCN 51, c'est-à-dire des cacaos hybrides pour pallier au manque de cacao d'origine dans les plantations. Un cacao bas moyen de gamme qui est résistant, parce que c'est nécessaire, mais qu'il ne sera pas peut-être le reflet du cacao qu'on a connu jadis dans les plantations au début du XXe siècle. Voilà, ça change.
C'était Sylvie Bélanger au micro de Claire Fage et c'était Éco d'ici, Éco d'ailleurs sur RFI. Nous parlons de l'agriculture mondiale face à El Niño. Trois invités pour en parler, Jean-Joseph Boileau, conseiller au club du CEPI, Catherine Miloc du Centre d'économie de la Sorbonne et Gilles Dufresneau de l'École d'économie de Marseille. Alors, on entendait à l'instant Sylvie Bélanger évoquer l'impact du Niño sur les plantations de cacao. Les grands producteurs, tout le monde le sait, en tout cas, je le crois, ce sont d'abord les pays d'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, le Ghana. Est-ce que le réchauffement climatique, est-ce qu'El Niño menace la production de cacao dans cette région vraiment, Catherine Miloc, ou qu'est-ce que vous en pensez?
Je ne connais pas la production de cacao en détail, hein, comme spécialiste, mais ce reportage illustre quand même une politique sectorielle intéressante à mener, qui est celle de favoriser l'adoption de variétés plus résistantes aux sécheresses. Donc, ça, c'est une réponse qui pourrait être menée, qui est controversée, qui est l'utilisation de biotechnologies dans l'agriculture. Il faut savoir que l'autre réponse traditionnelle, c'est plutôt utiliser plus d'engrais, de fertilisants chimiques, qui emporte d'autres problèmes environnementaux, de pollution de l'eau notamment. Donc il y a un vrai arbitrage là. Il n'y a pas une bonne réponse. Il y a, ça c'est un exemple intéressant donc, qui comporte donc, éventuellement des effets sur la qualité, le goût de ce produit, mais qui est une réponse pour des sécheresses plus fréquentes dans le futur.
Gilles Dufresneau, vous avez travaillé à l'UMOA, donc la Côte d'Ivoire, le Ghana, le cacao, ça vous parle? Est-ce que ce que dit Sylvie Bélanger à l'instant, vous êtes familier dans vos recherches aujourd'hui? Alors, on va vers une baisse de la qualité du cacao à cause d'El Niño?
Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je dirais que, à mon sens, il y a peut-être deux domaines dans lesquels on peut, d'une certaine façon, améliorer la situation. D'abord, augmenter la productivité. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, moi, je ne suis pas spécialiste d'agriculture, mais je crois que l'idée de combiner plusieurs variétés est une bonne chose. Dans un autre domaine comme le riz, c'est quelque chose qui a bien fonctionné, par exemple, au Nigeria. Est-ce que la qualité du cacao en serait pour autant de moindre? Je ne sais pas. Disons qu'elle serait différente. Je pense qu'elle serait peut-être différente. Et puis, il y a surtout une politique de stockage. Ça, c'est vraiment fondamental. Je pense que pour l'Afrique de l'Ouest, c'est peut-être un point faible. C'est-à-dire pouvoir produire énormément en dehors des périodes d'El Niño et surtout stocker dans de bonnes conditions sans que les céréales produisent des toxines et des choses comme ça.
En Afrique, El Niño donc, n'affecte pas seulement les zones tropicales. En Afrique australe, on en ressent aussi l'effet. L'Afrique du Sud subit ainsi sa pire sécheresse depuis 30 ans. Le phénomène touche tout le pays. 5 régions ont été déclarées en catastrophe naturelle au cours des derniers mois. La production agricole baisse, qui oblige le pays à importer pour répondre aux besoins alimentaires de la population. Et c'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Lisa Fabian à Johannesburg.
Dans les yeux de Pierre Van Heerden, on lit une inquiétude tenace. Le jeune agriculteur sait déjà que la saison sera mauvaise. À cause des pluies tardives et bien trop rares, il n'a pas pu planter autant de maïs qu'il le souhaitait et certains de ses champs sont restés vides.
Nous pouvons probablement survivre cette année et continuer encore une année de plus. Mais la majorité des fermiers dans cette région, et surtout plus à l'ouest, n'en sont pas à leur première sécheresse. Pour certains, c'est la troisième saison sèche. Donc, ils se retrouvent contraints de céder leurs terres aux banques.
Back to the banks. La récolte 2015 est déjà mauvaise. L'Afrique du Sud a été contrainte d'importer 700 000 tonnes de maïs pour faire face à la demande et respecter ses engagements à l'étranger, notamment au sein de la SADC. Johan Willemse est professeur d'économie à l'Université du Free State.
Nous allons devoir importer plus. Nous importons déjà du maïs jaune qui sert à nourrir les animaux. Mais pour payer ces importations, nous avons besoin de monnaie étrangère et ça leur revient cher, vu le taux de change. Ensuite, il faut transporter cette nourriture depuis les ports jusqu'aux zones urbaines, notamment la région de Johannesburg, qui concentre la plus forte demande. Donc cela crée d'autres défis sur le plan économique.
Les prix du blé et du maïs s'envolent, alors que le maïs blanc est un aliment de base pour les Sud-Africains les plus pauvres. La viande pourrait également se faire rare dans les prochains mois, comme l'explique Johan Stadler, membre de l'Association sud-africaine des producteurs de viande rouge.
Souvent lors des sécheresses, les gens gardent espoir et attendent qu'ils se mettent à pleuvoir. Du coup, ils gardent leur bétail trop longtemps et quand finalement ils réalisent qu'ils doivent vendre leurs animaux, ceux-ci sont trop maigres pour être vendus, donc il faut les engraisser. Puis quand enfin ils arrivent à les vendre, tout le monde est en train de faire la même chose et les prix sont donc très bas. Ensuite, après 2 ou 3 ans, quand la situation se stabilise et que les éleveurs essaient de reconstituer leur cheptel, les prix sont très élevés car tout le monde veut acheter à ce moment-là. Donc, en fait, après une sécheresse, il faut des années pour que la situation se stabilise.
La sécheresse menace d'abord la sécurité alimentaire des Sud-Africains les plus pauvres, une situation qui pourrait créer de nouvelles tensions sociales en Afrique du Sud.
Un reportage d'ici Eco d'ailleurs signé Lisa Fabian à Johannesburg. Catherine Miloc, je voyais réagir en entendant ce reportage. Qu'est-ce qui vous inspire ?
En fait, ce que je voulais souligner, c'est la différence quand même avec la situation dans un petit pays comme la Côte d'Ivoire. Un pays comme la Côte d'Ivoire est dépendant des exportations de quelques matières primaires, donc le cacao, le café, l'huile de palme. Un pays comme l'Afrique du Sud est beaucoup plus diversifié. Certes, il y a un impact sectoriel sur le secteur agricole. C'est un pays où 2/3 de l'économie est représentée par les services. Il y a aussi une part importante d'industrie. L'agriculture en Afrique du Sud représente quelques pourcents de l'économie, plutôt comme dans les pays riches en Europe. Et plus important encore, il emploie quelques pourcents de la population. Donc l'impact est beaucoup plus différent et beaucoup plus moindre que dans un pays comme l'Inde, où plus de la moitié de la population travaille dans l'agriculture. Oui. Donc ça, c'est une première chose à dire, que la diversification d'activités économiques aide un pays à subir un tel choc. Donc, certes, il y a des impacts sectoriels, mais l'Afrique du Sud est un pays à plus haut revenu que la Côte d'Ivoire. C'est un pays où il y a des assurances de récolte. Il y a des moyens de politique à
Quand vous dites des assurances de récolte, c'est-à-dire que les agriculteurs sont couverts par des assurances.
C'est-à-dire la couverture d'assurances récolte est plus élevée que dans d'autres pays en Afrique. Et justement, donc dans des pays asiatiques et dans d'autres pays africains, une réponse politique serait d'augmenter la couverture d'assurance récolte, comme dans les pays à haut revenu, comme les États-Unis ou l'Afrique du Sud. Donc je voulais quand même distinguer que certes, il y a un impact sectoriel fort, mais au niveau macroéconomique d'un pays comme l'Afrique du Sud, c'est moindre.
Oui, mais pour un petit pays comme les Côtes d'Ivoire. Malgré cela, Lisa Fabian nous disait que ça menaçait la sécurité alimentaire, en particulier des plus modestes.
C'est une autre chose. Ça, c'est un effet microéconomique distributif à l'intérieur du pays. Donc, un ménage pauvre peut dépenser plus que la moitié de leur budget en dépenses alimentaires. C'est ça qui compte. Donc, effectivement, mais là, de l'autre côté, si c'est un pays à moyen ou au revenu, il peut avoir des aides.
On revient vraiment aux travaux d'Amartya Sen,
le prix Nobel de l'économie.
Prix Nobel d'économie sur les questions de famine.
Oui.
Deuxièmement, moi, j'aimerais revenir aussi à une autre indienne, Vandana Shiva.
Qui est-ce ?
Alors, Vandana Shiva, c'est une activiste, on appelle ça en anglais et franglais mauvais.
Une militante.
Qui est ingénieure agronome et qui développe cette idée fondamentale de revenir à l'agrobiologie. Alors, pourquoi c'est très important ? Dans le Madhya Pradesh, j'ai fait un travail pendant 2 mois sur la question des semences utilisées. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est que beaucoup de territoires, et notamment d'agriculteurs traditionnels, disposer en réalité de semences extrêmement résistantes, et j'ai revu ça tout récemment au Niger, qui étaient prévues, elles avaient dans leur gène cette capacité de faire face à des variabilités climatiques. Et peut-être qu'il y a un changement climatique, mais on sait qu'il est lent, et donc on sait que les espèces peuvent s'adapter aussi à cela. Alors pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que j'ai très peur quand même que la question du climat, la question d'El Nino, soit une bonne excuse pour justifier les limites du modèle actuel, notamment l'Afrique du Sud que je connais bien, c'est exactement les limites de ce modèle extensif, utilisant plein d'engrais, donc très fragile par définition. Et surtout, ce lobby international cherche aujourd'hui justement à dépasser les limites de ce modèle extensif en proposant un autre modèle basé sur la manipulation génétique, les engrais, et donc évacuant encore plus les agriculteurs marginaux. Et ça me fait très 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 peur, parce que ce soit l'Afrique, que ce soit l'Inde, quand on a 60% de la population qui dépend, dont l'emploi dépend du travail agricole, dont la sécurité alimentaire dépend à 60% de leur propre production, eh bien, on risque, en tuant toutes ces semences traditionnelles, en les remplaçant par des semences dont ils possèdent le monopole, d'aller vers une catastrophe qui ne sera rien par rapport au problème d'El Nino. J'ai très très peur, là encore. Alors, j'ai des experts en face qui vont me dire si je me trompe ou pas. Et ce que j'aime bien dans Vandana Shiva, c'est qu'elle a lancé des banques de semences traditionnelles résistantes.
Gilles Dufresneau. Vous partagez la peur de Jean-Joseph Boileau ?
Oui, d'une certaine façon. Je voudrais dire tout de même que les problèmes d'insécurité alimentaire sont très important en Afrique. On parle bien sûr de l'Afrique australe, mais on a exactement les mêmes phénomènes en Éthiopie, en Érythrée, à Djibouti, etc. Et puis dans d'autres pays. Tout de même, le problème de l'insécurité alimentaire des familles est important. On a une évaluation, hein, on considère qu'il y aurait 15 millions pour l'Afrique australe si, une fois que El Niño aura complètement produit ses effets, ça mettra 15 millions d'individus en situation d'insécurité alimentaire. Donc, par rapport à ce qui est dit dans le reportage, c'est quand même important. Et puis, deuxièmement, je rappelle que on oublie que derrière tout ça, il y a les objectifs de développement du millénaire et que l'insécurité alimentaire renforce la pauvreté. Alors ça, c'est quelque chose de fondamental. Ensuite, toute la question qui est posée, c'est celle de l'instrumentation. Effectivement, vous pouvez avoir des lobbies du secteur agroalimentaire, etc., qui vont chercher à instrumenter. Bon, c'est ce que dit Jean-Joseph. Oui, il a raison.
Catherine Miloc.
Oui, je pense qu'il est important de distinguer des pays qui dépendent de l'agriculture de subsistance vis-à-vis des pays qui donc dépendent d'une agriculture plutôt intensive, donc comme l'Afrique du Sud, et l'impact est beaucoup plus sévère et grave pour les pays en Afrique qui dépendent de l'agriculture de subsistance.
Eh bien, merci Catherine Miloc, merci Gilles Dufresneau, merci Jean-Joseph Boileau. C'est la fin de cet écho d'ici, écho d'ailleurs consacré à l'impact économique d'El Niño. Guillaume Munier a réalisé cette émission et la mise en onde. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour de nouvelles aventures économiques. Écho d'ici.